Identité, territoire et création.
Ça fait plaisir de vous voir. Si vous avez besoin de moi, vous criez mon nom, je serai là.
Le 12 juillet 2007, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Festival d'Avignon et la Pensée de Midi s'associaient pour proposer deux tables rondes, identité et territoire, identité et création. Grenouille vous donne à entendre en 7 épisodes le contenu de ces débats animés par Thierry Fabre, ainsi que des interviews des intervenants, philosophes, historiens, géographes, metteurs en scène, écrivains et musiciens, réunis en Avignon pour nourrir la question des identités d'une réflexion à plusieurs voix. Cinquième épisode de notre série « Identité, territoire et création », on aborde maintenant la seconde table ronde de cette journée de débat animée par Thierry Fabre. Comment s'articulent les identités et la création? Eh bien, pour initier cette réflexion, voici l'écrivain et dramaturge Mohamed Kassimi.
Donc Mohamed Kassimi, ce rapport aux héritages et aux identités dans ce travail d'écriture et de mise en scène.
C'est une question.
Oui. C'est quelque chose qu'il faut mettre en question.
C'est vrai que c'est tellement un piège et c'est tellement vaste ce mot identité, tellement problématique qu'il n'y a pas de réponse. C'est plus un point d'interrogation qui est posé là comme quelque chose en suspens. Mais je pense que l'identité, ce n'est pas quelque chose d'inné ni d'acquis, c'est quelque chose, je dirais même que ça relève du travail manuel. L'identité, c'est quelque chose que l'on se construit soi-même au fil d'une trajectoire, qu'elle soit traumatique ou pas. Donc pour revenir à 62, c'est vrai que dans ce travail-là, l'idée était de décrire la trajectoire de cette génération d'enfants d'après l'indépendance, et contrairement à ce qu'on croit, par rapport justement, je pense que ce qui fonde l'identité, on pourra y revenir, c'est vraiment la langue. On a d'identité et on se forge l'identité dans la langue qu'on acquiert ou qu'on conquiert. Et contrairement à ce qu'on croit dans l'histoire classique, c'est que notre rapport, nous, de la génération d'après l'indépendance en Algérie, le français n'a jamais été imposé par le fait colonial. C'est la langue, commence l'histoire de la langue française, commence justement au moment où de l'indépendance.
Aussi un moment où on vous fait gentiment réciter nos ancêtres des Gaulois.
Oui, c'est le moment où
je pense qu'il y a une figure de l'instituteur qui était tout à fait intéressante et donc, vu depuis le lieu, peut-être dire quelques mots du lieu où justement cet apprentissage de la langue est venu au télescopage entre, je dirais, ce qui venait de la Zaouïa dont ta famille est issue et ce rapport à l'école et un autre qui a changé la donne.
Oui. Non, mais brièvement, donc l'histoire se passe dans un des villages les plus reculés, mais qui est quand même le lieu qui abrite une grande fondation ou une institution religieuse soufie. Donc on marche complètement de l'histoire, en marge de la réalité coloniale. Et il y a quelque chose qui fait le lien avec le monde, c'est cette école française que l'on va découvrir au lendemain de l'indépendance. C'est vraiment l'histoire de la langue française commence à partir du moment où la France s'éclipse. C'est comme une histoire d'amour impossible. La pièce raconte cette découverte de la langue française, cette irruption d'une langue autre dans une culture qui est aux antipodes de la culture française et de la langue, et l'acquisition de cette langue-là avec son imaginaire. J'ai des souvenirs comme ça. Le dernier souvenir de la guerre, c'est raconté dans la pièce. C'est le dernier mois de décembre, juste avant l'indépendance, où les soldats arrivent, colmatent toutes les fenêtres de cette école en plein désert. Il était midi et ils nous font chanter à la Claire Fontaine et ils avaient ramené des sapins. avec plein de décorations. Et vous imaginez comme ça des enfants de 6 ans avec plein de sapins. On disait, c'est drôle le sapin des Français. Il marche avec l'électricité et il donne pour fruits des chocolats. Donc ça, c'était vraiment une image inaugurale de cette enfance-là, la dernière image de la présence. Et il se trouve que des années plus tard, je faisais la présentation de cette pièce-là au Sable d'Olonne. Je raconte cette histoire. Il y a quelqu'un qui se lève, il dit, « Monsieur, je peux dire quelque chose ?» Je dis, « Bah oui. » Il m'a dit, moi j'étais officier appelé en 1962 et les services français nous avaient chargés de nous réconcilier avec la population. Donc on a importé des milliers de sapins de Provence qu'on a distribués à travers toutes les écoles et c'est moi qui ai offert ce sapin-là.
Voilà, c'est souvent par l'anecdote qu'on révèle des moments de l'histoire et des détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet héritage-là a été, je dirais, une impulsion à l'origine de, enfin, a provoqué le désir d'écrire un texte qui est 62, puis d'autres. Mais donc c'est pas une assignation identitaire, mais au contraire une source.
Oui, mais c'est
l'inspiration,
aussi.
L'inspiration, je ne sais pas.
Ouais. Mais surtout, c'est dans l'espace théâtral à l'époque, et je continue à faire ce travail-là, c'est de dire que le théâtre n'est pas là pour exacerber la violence du monde qui est exacerbée en elle-même. Le théâtre n'est pas là pour jeter de l'huile sur un feu déjà assez embrasé, celui du monde et de l'actualité. Écrire pour le théâtre aujourd'hui par rapport à des sujets aussi tragiques, c'est d'écrire à contre-courant de la tragédie. Et d'où 1962, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme chose de l'ironie, du dérisoire, de l'humour, de l'humanité contre cet effondrement de l'humain auquel on assiste à travers le monde aujourd'hui. D'où 62, d'où le dernier texte par exemple sur Jérusalem, Retour de Jérusalem, où l'idée c'était pas de dire nous avons un conflit insoluble, il y a des bourreaux et il y a des victimes, mais de voir quelle est la part d'humanité, quelle est la part de dérisoire, quelle est la part de rire qui subsiste dans ce monde où il n'y a plus d'humain et d'humanité.
C'est aussi le refus de revendiquer ou d'être vu au nom d'une identité unique. Je veux dire, Mohamed Kassimi, arabe, Mohamed Kassimi, musulman, et Mohamed Kassimi, d'abord auteur, et avec lequel il travaille sur ses sources, sans jamais d'ailleurs les récuser, puisque je crois qu'écrit un texte qui s'appelle Arabe, vous avez dit Arabe, ou ouais. Beaucoup de choses. Il y a un travail sur les sources, justement, mais pour s'en libérer d'une certaine ouais. façon.
Je pense, oui, il y a une belle formule de Jacques Berck qui dit « Aimer un pays, c'est pouvoir le dépasser ». Je pense que si l'on a une identité, c'est pouvoir la transgresser, c'est-à-dire l'habiter au point où on arrive à la dépasser, à en sortir. Et c'est pour ça que ça fait pratiquement 15 ans que je travaille essentiellement sur les textes, sur la Torah et sur le judaïsme. Donc c'est à force d'avoir été baigné dans cette culture religieuse musulmane que je m'autorise aujourd'hui à tous ces excès et ces prises de position par rapport à la religion. Mais je pense aussi...
Si vous pouvez penser à éteindre les téléphones portables, merci.
Ouais. Dernière chose sur l'identité, c'est... Il y a 3 semaines, j'étais au Liban et je posais la question à un grand poète libanais, Abbas Baydoun, sur le miracle libanais. Je dis, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans ce monde arabe qui est une suite, un chapelet de goulag, de Rabat jusqu'à Bagdad, où il n'y a aucun espace de liberté, et il y a ce Liban miraculeux qui est là comme une sorte d'exception culturelle, ontologique même, où la parole théâtrale, la parole du cinéma, la presse sont libres. Et Abbas éclate de rire, il me dit, parce que nous ne sommes pas majoritaires et nous ne sommes pas seuls entre musulmans dans ce pays-là. Voilà, donc c'est ça l'identité, c'est apprendre, c'est un apprentissage, je dirais, de l'altérité.
On reviendra, j'imagine, sur cette altérité, notamment Israël-Palestine et la confession d'Abraham et le sens de l'humour et de la dérision pour justement appréhender ce rapport à l'identité dans ce travail d'écriture. que ce serait bien de revenir avec Mohamed Kassimi sur les identités blessées. On parlait de traumatisme tout à l'heure avec Benjamin Stora. Quand on traverse la situation Israël-Palestine de près, quand on écrit sur Abraham et qu'on en rit et qu'on refuse de désespérer, il est interdit de désespérer. Je me souviens d'un texte qui se terminait comme ça, en faisant un rappel à un rabbin. Ce rapport, comment ça se joue quand on fait venir des auteurs, des artistes, et qu'on soi-même on essaie de d'écrire à partir de oui, j'appellerais ça des identités blessées, en tout cas traumatisées, quand on dans des situations de guerre, et il y en a deux de vues de près, justement le Liban l'été dernier. Et Israël-Palestine au jour le jour et chaque jour un peu plus en ce moment. Mohamed Kassimi.
Oui, ce qui est frappant dans ce genre de situation, dans ce genre de pays, c'est que la réalité est toujours à côté des idées que toutes les idées et les représentations que nous pensons avoir. Je pensais à Azad qui dit « J'avais une fascination pour la guerre ». Là, j'ai travaillé cette année avec une amie libanaise qui a vécu toute la guerre au Liban. Et je lui dis « Mais dis-moi, quelle est l'image que tu as retenue de 17 ans de guerre ?» Elle me dit « C'est l'image faire l'amour jour et nuit sur les tombes du cimetière orthodoxe ». Donc c'est ce qui restait, c'est pas quelque chose de la catastrophe ou de chaos, c'est quelque chose de l'ordre de la survie, être malgré, exister malgré la guerre. Justement, le texte a été mis en scène par Alain Timard, qui est là, que je salue. Et donc pour revenir à Israël et à la Palestine, là aussi... Ce que tu disais hier, on tombe dans quelque chose, c'est le piège de l'identité également. C'est l'identité ou l'altérité peut être quelque chose d'illusoire. Et ça, je l'ai vécu à un moment donné en intervenant à Naplouse. Naplouse est l'une des plus grandes villes palestiniennes où il y a 200 000 personnes qui sont complètement enfermées. Il est interdit d'entrer et de sortir de la ville. Il y a juste deux points d'accès, à deux checkpoints qui contrôlent l'accès, l'entrée et les sorties filtrées au compte-gouttes par l'armée israélienne. Donc j'arrive à Naplouse et l'attaché culturel me dit, de l'ambassade de France, me dit « Il faut faire attention, tu vas intervenir dans une université qui vote à 70% pour le Hamas ». Donc j'arrive dans cette université, dans le département théâtre, et avec plein de livres comme ça, avec Bond, avec des choses assez dans le théâtre contemporain. Et puis je dis « Mais sur quoi voulez-vous qu'on travaille ?» Ils me disent « Mais on aimerait bien travailler sur « Je me souviens » de Pérec ». Donc, et qu'est-ce que l'amour aujourd'hui ? Donc, on commence l'atelier et le prof me dit « Est-ce que je peux m'associer à votre atelier ?» Je dis « Bien sûr, il monte sur le plateau. » Il dit « Voilà, je vais raconter mon histoire personnelle. J'ai décidé de rentrer de France, où il a fait ses études, il y a 6 mois. Les gens de Cisjordanie ne passent pas par Tel Aviv, passent obligatoirement par Amman et le pont d'Allenby. » Il me dit, j'avais une petite valise, il pleuvait, j'arrive devant un jeune soldat israélien qui se met à m'insulter en hébreu, ne sachant pas que je parlais couramment hébreu, donc sale race, vous n'êtes que des cafards, vous êtes sale, etc. Et puis il l'oblige à se déshabiller et le Palestinien est là, il est presque con slip sous la pluie, le jeune soldat continue à fouiller et il tombe d'un coup... Par hasard, sur un livre au fond de la valise, c'était « Métaphysique des tubes » d'Amélie Nothomb. Et type, il s'arrête de l'insulter, il dit « Mais vous parlez français ?» Il dit « Oui, mais vous êtes palestinien ?» Il dit « Ben, c'est pas antinomique, je suis palestinien, prof à l'université, je sors de Sancier. Et vous connaissez Amélie ?» Et je dis « Oui, j'ai fait ma thèse sur Amélie Nothomb. » Il dit « Le type se décompose, se met à chialer. » Il dit « Excusez-moi, je suis Duplessis Robinson, je suis militant d'SOS Racisme, je tiens ce discours pour ne pas mourir, pour ne pas devenir fou. » Et il me dit, il me prend par la main et il me fait traverser toutes les haies des barbelés. Et moi avec Amélie Nothomb à la main. Donc pour dire que c'est vrai que par moment, on se construit cette altérité de l'autre, c'est-à-dire ça relève du mal entendu au sens lacanien. Et à un autre moment aussi... J'arrive avec la délégation d'auteurs français à l'université Tel Aviv. Comme l'arabe, il y a une très grande proximité avec l'hébreu, j'entends la traductrice dire « Nous avons ici un groupe d'auteurs de dramaturges français. » Il y avait Jean-Yves Pic, Jean-Paul Vinzel, Pauline Salle avec moi et Daniel Ramponi. Elle dit « Le groupe est présidé par un écrivain juif, Mohamed Kassimi. » Je dis à ma copine, qui est la responsable du département théâtre, j'ai dit « Mais écoute, Nourit, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Elle me dit « C'est pas grave, ils t'écouteront mieux. » Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose.
Je crois que
ça joue dans un sens ou dans l'autre.
Voici maintenant, en complément de cette table ronde, deux questions posées à l'issue de celle-ci à Mohamed Kassimi. Mohamed Kassimi, bonjour.
Bonjour.
La langue, le langage, est-il selon vous constitutif d'identité ?
Donc je pense que la langue est fondatrice de l'identité, en pensant à cette formule de Cioran, on n'habite pas un pays mais on habite une langue. Donc je pense que s'il est un territoire, s'il est un espace, ou même je dirais une géographie imaginaire à laquelle je pourrais me rattacher, un jour ce serait cette appartenance à la langue.
De ce point de vue, est-ce que transcrire d'une langue à une autre, c'est aussi important que d'écrire ?
Transcrire, c'est-à-dire sur le travail de traduction, c'est le passage. Je reste convaincu que la transcription ou le travail de traduction, c'est vraiment la plus belle école de formation, où elle nous permet de confronter non pas seulement les structures et les techniques de deux langues, mais d'aller au fond de l'imaginaire de chaque langue. La transcription est une sorte, je dirais, de radioscopie de la langue et de l'imaginaire.
L'identité est forcément une notion complexe. Je vais vous proposer deux figures classiques de la complexité, que sont le labyrinthe et la mosaïque. À votre avis, laquelle des deux est la mieux adaptée à la complexité de l'identité, labyrinthe ou mosaïque ?
Plutôt le labyrinthe. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qu'on se forge au jour le jour. C'est quelque chose que l'on s'invente, parfois à force d'oubli, parfois de progression contre ses propres origines, ce que je fais. Je pense que si j'écris, c'est grâce à tout ce travail de déracinement que je fais par rapport à mon histoire particulière. Donc je pense que la figure ou l'image du labyrinthe est plus appropriée. L'identité est une suite de tâtonnements et d'essais, peut-être parfois malheureux, peut-être qui aboutissent à des cul-de-sac comme dans un labyrinthe, mais elle fait partie de cette entreprise comme ça de marche progressive, de tâtonnement, d'empirisme.
Merci Mohamed Kassimi.
Merci.
Rendez-vous demain à la même heure pour la sixième de cette série d'émissions. Nous écouterons l'intervention et un interview de François Cervantes, auteur et metteur en scène.